Merci Sonia, bonjour à tous. Mardi dernier, nous étions réunis au pied des statues du grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion du forum France Culture consacré au nouvel âge de la politique. Nous avons cherché à savoir quel degré d'inégalité nos sociétés étaient prêtes à supporter. Une discussion en compagnie de Cécile Duflo, des économistes Lucas Chancel et Jean-Marc Daniel et du sociologue Olivier Galland. Il est 14h sur France Culture et dans un instant, vous entendrez l'écho de la Sorbonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier débat. Alors les inégalités ont explosé dans le monde depuis les années 80, la chose est désormais connue. La mondialisation a laissé de côté toute une partie de la population mondiale à qui la croissance économique ne profite pas ou pas assez. Mais si le phénomène a plus durement touché les États-Unis ou le Royaume-Uni, du moins si l'on en croit les chiffres, c'est pourtant bien en France, où Tocqueville percevait dès 1835 une passion pour l'égalité, je cite, « ardente, insatiable, invincible ». En France, donc, que la crise des Gilets jaunes a éclaté. Des milliers de manifestants sont sortis dans la rue pour réclamer plus de pouvoir d'achat et de justice sociale. Notre pays serait-il donc plus inégalitaire qu'on ne veut bien le dire ? Le pacte social qui suppose une harmonie de la croissance économique et de l'égalité des chances a-t-il été rompu ? Et plus largement, quel degré d'inégalité, réelle ou perçue, sommes-nous prêts à accepter pour faire société ? Le débat est ouvert et pour en discuter, quatre invités sont avec nous. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'Oxfam France et ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement. À vos côtés, Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, membre du laboratoire sur les inégalités mondiales, auteur notamment de cet ouvrage « Insoutenable inégalité » publié au Petit Matin. J'accueille également Jean-Marc Daniel, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe et auteur des impôts « Histoire d'une folie française » publié chez Thaïlandier. Et enfin, Olivier Galland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et vous avez écrit « Une sociologie des inégalités » publiée chez Armand Collin. Un grand merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, quel état des lieux, des inégalités peut-on faire aujourd'hui, sachant que les inégalités ne sont pas qu'économiques, elles sont aussi sociales, environnementales, territoriales, Cécile Duflo ?
Oui, en fait, il y a un cocktail d'inégalités dont certaines se renforcent les unes les autres, et en particulier les inégalités économiques et les inégalités environnementales, en tout cas la vulnérabilité face au changement climatique. Donc ce dont il faut être conscient, c'est que cet accroissement des inégalités, il s'est fait dans un phénomène assez particulier, avec une baisse de l'extrême pauvreté, même s'il y a débat en fonction du niveau qu'on fixe pour qualifier cette pauvreté d'extrême, dans le cadre d'un grand programme mondial qui est allé de pair avec une baisse de la faim dans le monde. Tendance qui s'est inversée ces trois dernières années en ce qui concerne la faim dans le monde, notamment justement du fait du dérèglement climatique. Mais de la même manière, les inégalités se sont envolées avec une concentration et avec un espèce de système qui semble complètement enrayé de la richesse entre les mains des plus riches et des ultra riches, que ce soit au niveau mondial, mais dans beaucoup de sociétés, la France ne faisant pas exception.
Lucas Chancel, on peut dire qu'aujourd'hui, on est revenu au niveau d'inégalité sociale et économique qu'on pouvait constater au début du 19e siècle. Et le 20e siècle ne serait du coup qu'une parenthèse de recul des inégalités.
La question de la parenthèse, ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on va être en mesure, qu'est-ce qu'on va être capable en tant que société de mettre en œuvre pour potentiellement réduire ces niveaux élevés d'inégalité qu'on observe aujourd'hui. Et après, c'est sûr que, bon, grosso modo, depuis la révolution néolithique, le passage à l'agriculture, à peu près il y a 10 000 ans, on est dans des sociétés inégalitaires, du fait de la création de richesses et de la création de mécanismes de transmission de ce patrimoine, de génération en génération, et que ce niveau élevé d'inégalité a perduré à peu près tout au long de l'histoire des sociétés humaines. Et il y a ce moment. Est-ce que c'est un moment particulier de l'histoire ou est-ce que c'est un moment qui peut durer, qui est cette deuxième partie du XXe siècle, du fait des crises économiques, du fait des crises politiques majeures, mais aussi du fait des politiques importantes de redistribution qui ont été mises en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale dans les pays occidentaux et un peu avant dans les pays de l'Est, qui fait qu'il y a ce compromis égalitariste, compromis égalitaire, donc qui va prendre différentes formes, société d'économie mixte, dans les pays, dans les démocraties occidentales, compromis ou société communiste dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, donc depuis les années 80, on observe cette remontée des inégalités à des rythmes différents. C'est-à-dire que aux États-Unis, on est à peu près revenu sur la concentration du patrimoine au niveau effectivement du début du XXe siècle. en Europe et notamment en France et au Royaume-Uni, sur la question du patrimoine, de la concentration du patrimoine, on n'est pas encore revenu à ces niveaux-là, mais on se dirige vers ces niveaux-là si on continue sur la tendance actuelle.
Et alors comment explique-t-on justement, Lucas Chancel, ce retour des inégalités depuis les années 70-80 ?
Peut-être pour le dire assez simplement, il y avait un contre-modèle dans les années 50, dans les années 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui fait que, disons, les élites économiques ont besoin de réduire les inégalités, sinon elles ont peur que le système explose, pour le dire très simplement. Et le tournant néolibéral des années 80, qui va se renforcer à la chute du mur, c'est l'idée que, bon, finalement, on peut faire société sans s'occuper, sans se préoccuper de cette question de la réduction des écarts. Et que finalement, on revient sur ce qui a été finalement un peu la caractéristique du 19e siècle, qui est cette sacralisation du marché. Et cette sacralisation de la propriété privée et finalement du niveau d'inégalité généré par le marché, c'est presque religieux. C'est quelque chose qui finalement est tout à fait normal et qui est à célébrer plutôt qu'à critiquer, plutôt que quelque chose sur lequel on devrait pouvoir agir.
Jean-Marc Daniel, vous parleriez-vous d'une sacralisation du marché ?
Non, je pense que cette approche qui consiste à considérer que le marché est une idée religieuse, c'est une approche qui va contre l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné effectivement les systèmes étatiques aussi bien en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est ? C'est parce qu'ils avaient échoué. C'est-à-dire que la promesse qui avait été donnée au travers de la prise de pouvoir par l'État sur l'économie, c'était le plein emploi. Je rappelle qu'en 1947, Alvin Hansen, que certains des étudiants qui sont ici peuvent connaître au travers du modèle ISLM, avait écrit un livre fondateur qui s'appelait Full Employment and Economic Policy, dans lequel il disait que l'État allait apporter à la société le plein emploi. D'où la possibilité de construire justement un système de redistribution, un État-providence calé sur la masse salariale et calé sur des évolutions effectivement de revenus autour de cette idée de plein emploi. Et symétriquement, les démocraties populaires, au bout d'un moment, n'avait comme seul mérite à mettre en magasin, dans un contexte de dictature politique, le fait qu'il y avait le plein emploi. Or, ce que l'on constate au milieu des années 70, c'est que, aussi bien au travers du drame, notamment cambodgien, l'extrémisme qui peut y avoir dans la prise du pouvoir de l'État sur l'économie peut conduire à des aberrations et à des monstruosités, et l'échec et l'incapacité des démocraties occidentales à répondre au choc pétrolier fait qu'il va falloir revoir le logiciel. Mais on n'est plus dans une logique et on n'est pas dans une logique qui est une logique religieuse. Juste en complément de ça, je pense que en plus, la demande de la population face au chômage et face à la redistribution des revenus, c'est une demande de nouveau en termes de lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que, comme le disait Kennedy, qui était un des théoriciens de ces politiques social-démocrates, une véritable politique de redistribution n'est pas là pour punir les riches, mais pour aider les pauvres. Et donc il y a aussi la perception d'une partie de la population que toutes ces politiques ont été construites essentiellement, notamment au travers de la fiscalité, sur une démarche qui était consistée à punir les riches.
Cécile Duflot, sur ce point, et peut-être sur le fait que la France, justement, comme le disait Lucas Chancel, est peut-être le pays qui a le moins souffert de cette hausse des inégalités dans les pays industrialisés.
Alors, en revenu disponible, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de les mesurer. Il y a le patrimoine, il y a le revenu disponible, il y a le revenu primaire. En matière de revenu primaire, non. Les inégalités se sont accrues. En matière de revenu disponible, non, grâce à la redistribution. Parce que c'est ça qu'il faut se dire. Les inégalités ou la pauvreté, c'est pas une fatalité. C'est la résultante de choix politiques. Donc il faut pas confondre le débat sur le libéralisme et celui sur les inégalités. Et notamment sur la force de la redistribution. L'autre écueil, c'est la phrase que je vous ai entendu dire, c'est dire « Ouh là là, on veut punir les riches ». Mais quand on voit aujourd'hui qu'on est dans un monde où les milliardaires non seulement augmentent en nombre, mais augmentent en patrimoine dans des proportions qui deviennent avec des niveaux de richesse qui ne sont plus tout à fait en phase avec même la capacité de les dépenser. Ils peuvent simplement réinvestir pour avoir encore plus de dividendes et être encore plus riches. En gros, c'est tout ce qu'ils peuvent faire avec la masse d'argent dont ils disposent. Mais la difficulté de cette analyse-là, de dire on veut punir les riches, c'est que on fait abstraction d'une partie du débat qui est que si on est dans une logique de redistribution, il faut bien redistribuer l'argent et la richesse où elle se trouve. Et en général, et aujourd'hui de plus en plus, et c'est une des difficultés de la France, elle se trouve chez ceux qui gagnent le plus d'argent. Pourquoi il y a un vrai sujet autour de cette question et pourquoi la France est vulnérable et pourquoi sans doute une des clés d'explication du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs on l'a vu, ça a été de dire ce sont des inégalités territoriales d'accès aux services publics. Mais cette question des services publics fait partie de la redistribution. On vit sur un mythe aussi en France, un mythe d'égalitarisme républicain. Et donc on dit, mais tout le monde a accès à l'école. Mais j'invite chacun à voir, d'ailleurs les reportages l'ont montré, ce que c'est une école primaire à Marseille et ce que c'est une école primaire à Paris dans le 5e arrondissement.
Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas une véritable égalité des chances.
Et ce que je dis, c'est que cette question de l'égalité, elle se mesure avec des indicateurs qui sont différents et qui prouvent d'ailleurs qu'il n'y a pas de corrélation entre le modèle économique du pays et la redistribution. Oxfam a travaillé au niveau international sur un indice de réduction des inégalités, c'est-à-dire quelles sont les politiques menées qui permettent d'aboutir à une réduction des inégalités. Sans surprise, le Danemark fait partie des pays qui est un pays où les inégalités sont plus faibles, en tout cas où la politique publique menée vise à réduire les inégalités. Quel effet ça a ? Pas d'effet sur l'organisation, c'est un pays libéral, un pays où le marché a toute sa place, un pays où il existe des services publics, mais où ce ne sont pas, enfin, c'est pas une économie étatique. Et pourtant, il y a une politique fiscale de redistribution. Meilleur exemple, il est donné par un des milliardaires danois qui le dit dans notre dernier rapport à Davos. Il dit que quand il est allé rendre visite à une de ses amies au Brésil, il a dû franchir 3 sas de sécurité, 3 contrôles. Elle avait un magnifique appartement à Rio, mais avec des barreaux sur toutes les fenêtres, sur toutes les baies vitrées. Parce que justement, cette inégalité crée une tension sociale très très forte. Donc être milliardaire au Danemark et donc forcément subir un taux d'imposition bien plus élevé ou au Brésil, c'est pas la même chose parce que les inégalités ne sont pas les mêmes. Donc attention au piège sur le débat sur le modèle libéral ou le modèle étatique. C'est pas, on peut redistribuer dans un modèle libéral.
Lucas Chancel, vous parleriez vous aussi d'un mythe de l'exception égalitaire française ?
Si vous voulez, je pense que les Français, quand on leur parle du niveau d'inégalité en France, et quand on dit, non mais écoutez, regardez, en fait, la France se porte bien mieux que les États-Unis, par exemple, c'est pas forcément le bon point de comparaison. C'est-à-dire que on se compare plutôt à ce qu'on a vécu ou à ce que ses parents ont vécu. Et là, force est de constater que les 30 Glorieuses sont bel et bien terminées pour la grande majorité de la population française, mais pas pour tout le monde. Donc les travaux du laboratoire sur les inégalités mondiales montrent que vous avez pour les 99 ou 95% du bas de la population française, une croissance annuelle moyenne d'environ 3% pendant les 30 Glorieuses, et puis ensuite 1% depuis les années 90. Mais c'est l'inverse qui s'est passé pour le sommet du sommet de la distribution. C'est-à-dire que vous avez une croissance d'environ 1% pour les 1% ou les 0,1% du haut pendant les 30 Glorieuses, et depuis les années 90, depuis les années 2000, les taux de croissance au sommet sont plus de 2-3%. Donc vous avez des 30 Glorieuses qui en fait continuent pour certains groupes. Et finalement, c'est quand même peut-être ce sentiment-là qui va nous permettre, qui va nous aider à comprendre davantage que la comparaison entre la France et les États-Unis, qui va nous aider à comprendre le phénomène des gilets jaunes. Par ailleurs, on sait bien, on le voit bien, que les patrimoines, les plus hauts patrimoines, même s'ils augmentent moins rapidement en France qu'aux États-Unis, qu'ils augmentent année après année. Ça, c'est des choses. Le système financier est très opaque. On a beaucoup de mal à retracer ces évolutions, à savoir vraiment ce qui se passe. Mais on a des classements Forbes sur les fortunes. On a les travaux de groupes de recherche, d'ONG, qui nous indiquent qu'il y a quand même une croissance beaucoup plus forte au sommet de la distribution des patrimoines des richesses que ce qui se passe pour le Français moyen, au niveau de la croissance des revenus.
Jean-Marc Daniel, sur cette augmentation des inégalités en France.
Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les exemples qui sont pris sont des exemples en termes de revenus et de patrimoine. Or, ce qui est important, à mon avis, pour faire société, c'est la possibilité que l'on donne à quelqu'un d'exprimer son talent. Et donc, c'est les inégalités d'accès. C'est l'existence d'endroits qui sont fermés à une certaine catégorie de population. Quand vous dites on parle d'égalitarisme au travers du service public, mais effectivement, la qualité de l'enseignement n'est pas le même dans certains quartiers de centre-ville et dans certains coins isolés de la France. Et donc, le véritable enjeu, c'est pour un État et pour une politique économique, ce n'est pas encore une fois d'essayer de réduire les inégalités en abaissant la tranche supérieure, mais d'essayer de donner à chacun la possibilité d'exprimer et de réaliser sa mobilité sociale. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que il y a des inégalités qui sont corrigées par la croissance économique, par du fait que l'accès au progrès est plutôt relativement égalitaire. Il y a un exemple célèbre en deux mots qui est pris par Schumpeter quand il compare le XVIIIe siècle, les débuts de la révolution industrielle, et l'époque qu'il vit. Au XVIIIe siècle, il dit quel est l'homme le plus puissant du XVIIIe siècle ? C'est le roi de France, Louis XV. Et si à 3 heures du matin il veut lire, il tire sur un cordon, et au bout de 3 minutes... on lui apporte sous forme de bougie une quantité de lumière qui lui permet de lire jusqu'au petit matin. Le paysan qui est à 20 km de Versailles, il peut pas faire ça pour deux raisons. On lui a pas appris à lire. Et deuxièmement, il n'a pas de bougie. Et donc, il y a une inégalité qui est une inégalité colossale qui fait que le paysan ne peut pas connaître ce que connaît le roi Louis XV. En revanche, dit Schumpeter, l'homme le plus puissant de l'époque dans laquelle je vis, c'est le président des États-Unis, Harry Truman. Et il dit, comme il n'aimait pas Truman, il dit, je fais l'hypothèse qu'il a envie de lire, ce qu'il dit qui est une hypothèse absurde, vu le niveau intellectuel de l'individu. Mais bon, donc il évacue ça, et il dit, il appuie sur un bouton, et il a gagné 3 minutes. Entre Truman et Louis XV, il y a 3 minutes. En revanche, le paysan américain qui habite dans le Maryland, à 20 kilomètres de la Maison Blanche, il appuie sur le même bouton, et il peut lire comme le président Truman. Et donc, ce qui a véritablement réduit les inégalités, c'est la croissance économique, c'est le progrès technique. Vous avez une preuve dans la vie quotidienne. La première fois que l'INSEE a recensé de façon systématique les salles de bain dans les appartements, en 1954, donc l'année de l'abbé Pierre et tout ça, il y avait 8% des appartements et des logements en France qui avaient une salle de bain. À l'heure actuelle, dans le dernier recensement, on est à 98%. Et donc, les gens qui avaient une salle de bain ont toujours une salle de bain. En revanche, la population, d'une façon générale, a accédé à ce niveau de confort de cette élite qui pouvait avoir une salle de bain. Et ça, c'est grâce au progrès technique. Et ça ne se mesure pas, effectivement, de façon très très concrète, dans les revenus et dans les patrimoines.
Cécile Duflot. Je voudrais une toute petite réaction, parce que le rapport que Oxfam a sorti à Davos s'appelle « Fortune privée au service public ». Parce que bien sûr que l'important et l'essentiel, c'est les services publics, notamment la santé et l'accès à l'éducation, et en particulier des filles. Cette question, c'est comment vous le financez? Et je vais donner juste un exemple, parce qu'en fait, les choix politiques, ils doivent se faire au détriment ou en faveur de tel ou tel. Donc ça peut être une redistribution des revenus, une aide, mais ça peut aussi être le choix de financer des services publics. Aujourd'hui, le débat s'est cristallisé en France ces derniers temps, notamment sur l'ISF, mais le montant qui a été gagné sur la transformation de l'ISF en IFI, 3,2 milliards d'euros.
Donc l'impôt sur la fortune immobilière.
Voilà. C'est 8 fois ce qu'on a demandé en baisse d'APL pour les ménages les moins riches. Donc vous voyez bien qu'il y a une transitivité. Si vous voulez baisser l'ISF, de fait, c'est ça qui s'est passé. On avait tous alerté avant que les choix fiscaux qui étaient faits étaient des choix qui aggravaient les inégalités. C'est-à-dire que par la baisse des prestations sociales, on enlevait du revenu aux plus pauvres et qu'on augmentait la richesse des 1%. C'est ça qui s'est fait, voire des 1 pour 1000. C'est un choix fiscal qui est un choix inégalitaire. Mais c'est un choix politique. On dit, bah voilà, on fait baisser l'ISF et avec ça, bah on doit faire baisser les APL. À l'inverse, on pouvait augmenter, on maintenait le niveau d'ISF, on pouvait augmenter les APL. Donc la question des services publics, elle est intimement liée aux choix fiscaux et aux choix de redistribution pour leur financement, tout simplement.
Et puis il y a la question des inégalités réelles et la question des inégalités perçues. Plusieurs études ont montré que les Français ont le sentiment d'appartenir à une société très inégalitaire. Olivier Galland, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Oui, alors effectivement, c'est pour ça qu'il est difficile de répondre à la question de ce séminaire.
Quel niveau d'inégalité
voilà,
peuvent supporter nos sociétés ?
Quel niveau d'inégalité est acceptable ? Parce qu'en fait, la perception des inégalités qu'ont les Français, alors les études que je connais portent sur les Français, est relativement décalée par rapport aux indicateurs objectifs dont on peut disposer. Donc c'est une petite énigme sociologique finalement sur laquelle on a essayé de réfléchir. Alors d'ailleurs, il y avait eu un rapport il y a 2 ans de France Stratégie, l'organisme public de réflexion prospective sur ce sujet, qui était très intéressant et qui faisait un peu le pendant systématiquement entre la représentation des Français et les indicateurs sur différents registres d'inégalité. Alors je donne quelques illustrations. Par exemple, lorsqu'on présente aux Français des images de la société qui représentent le mieux la distribution des revenus, quelle image choisissent majoritairement les Français ? Ils choisissent l'image d'une pyramide avec une base très large et une pointe très étroite et un milieu assez étroit également. Donc en fait, beaucoup de pauvres, assez peu de moyens et très peu de riches. Bon, en réalité, la représentation qui correspond à la distribution réelle des revenus en France est plutôt celle d'une toupie, hein, c'est-à-dire quand même des classes moyennes relativement nombreuses. Et d'ailleurs, c'est amusant quand on interroge les Français non plus sur leur représentation globale de la société, mais sur leur sentiment d'appartenance à une classe sociale, la grande majorité des Français disent appartenir à la classe moyenne, donc, ce qui correspond d'ailleurs à la réalité. Autre exemple, lorsqu'on interroge les Français sur les inégalités, ils disent, un, qu'elles sont effectivement très importantes, et deux, qu'elles ont explosé dans les dernières années. Bon, ça correspond pas tout à fait non plus à la situation française, si vous voulez, qui est un pays d'inégalité plutôt modérée. Alors, effectivement, on n'est pas dans les standards des pays du Nord, mais enfin, on est quand même juste en dessous. Et puis, on peut pas dire vraiment que les inégalités ont explosé en France. Alors, évidemment, c'est compliqué cette question parce que tout dépend des indicateurs qu'on emploie. L'inégalité, c'est quelque chose de relatif. Donc on compare. Alors effectivement, si on compare, comme le fait Piketty, par exemple, les 1% aux autres, là, on va peut-être dire que les inégalités ont beaucoup augmenté.
Je voudrais simplement entendre Lucas Chancel, peut-être sur cet aspect que vous soulevez, en effet, sur la difficulté à voir des études et à comparer différentes études qui prennent en compte différents indicateurs. Comment on arrive à avoir une vision sur ces inégalités, Lucas Chancel, alors même que les indicateurs sont nombreux?
Alors, c'est vrai qu'on est dans des sociétés, dans des débats économiques qui continuent de mettre en avant un indicateur qu'on connaît tous, qu'on entend tous à longueur de journée dans les débats économiques, qui est le PIB. Et les systèmes statistiques, les systèmes de mesure, de représentation de l'économie ne sont pas des systèmes qui nous permettent de savoir comment ce PIB, cette croissance du PIB, se répartit selon différentes classes de revenus, selon différents groupes de la population. C'est pas comme ça qu'on a construit nos statistiques publiques. Et si on les a pas construites de cette manière-là, c'est aussi pour une raison, c'est-à-dire que la pensée économique du moment de la création du PIB, années 30, années 40, c'est une pensée qui s'occupe moyennement de la question des inégalités. Ce qui compte, c'est de faire de la croissance moyenne, de la croissance totale. Donc, depuis les années 80, on se rend compte que les inégalités augmentent et il nous faut aussi des outils de mesure de ces tendances-là.
Donc, il faut des nouveaux indicateurs.
Donc, il faut absolument de nouveaux indicateurs, mais on voit aujourd'hui qu'on a des problèmes pour les développer puisqu'on n'a pas nécessairement l'outillage statistique pour le faire. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec une centaine d'économistes répartis dans le monde entier dans le cadre du laboratoire sur les inégalités mondiales. On essaie de convaincre les institutions officielles de le faire, mais de le faire d'une manière qui est connectée à la croissance du PIB. Parce que bien sûr, l'INSEE produit des indices sur l'évolution des inégalités, mais ce ne sont pas encore des chiffres aujourd'hui qui sortent de manière, chaque fois que les chiffres du PIB sortent, on n'a pas à côté un PIB désagrégé en fonction des classes de revenus. Et je pense que c'est ça qui va permettre vraiment de faire avancer le débat économique sur ces questions. Juste un autre point sur ce qui a été dit avant, sur potentiellement cette opposition qu'il y aurait entre égalité des chances d'un côté, et donc la solution c'est quoi? C'est d'investir dans l'éducation, et inégalité des résultats de l'autre, et là, il faut de la redistribution, il faut de la fiscalité, etc. En fait, on peut pas opposer l'égalité des chances et l'égalité des résultats. Et une société comme la société américaine, où vous avez une égalité des chances qui est monstrueuse, et une égalité des résultats, c'est-à-dire des revenus qui est monstrueuse également, si l'égalité des chances est aussi élevée, c'est bien parce que vous avez une très forte concentration des revenus et des richesses. Les jeunes Américains qui sont issus des classes inférieures ne peuvent pas accéder à l'éducation supérieure parce que cette éducation est payante et parce que leurs parents n'ont pas les revenus nécessaires pour qu'ils y accèdent. Et pour réduire cette inégalité, il y a deux choses à faire. La première, c'est permettre une éducation supérieure davantage gratuite, moins chère, mais aussi niveler davantage la répartition des revenus et des patrimoines. Premier point. Deuxième point, penser que c'est uniquement à travers l'éducation ou l'investissement dans l'éducation qu'on va réduire les niveaux de concentration extrême des richesses et des revenus aujourd'hui, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Pourquoi ? Parce que si vous regardez tout au sommet de la distribution, tout au sommet de l'échelle sociale, ce qui va différencier les plus riches entre eux, c'est pas des niveaux d'éducation différents. C'est qu'à un moment, on va peut-être avoir une invention qui, dans un contexte social, technologique donné, va faire qu'on va pouvoir accumuler un patrimoine considérable. Mais on va pas réduire ces niveaux de concentration ou de possibilité de capter un marché mondial aujourd'hui en investissant davantage dans l'éducation.
Cela passerait donc par une taxation et de la succession.
Alors, notamment par la taxation. Et juste un point, un rappel ici, c'est quand même les États-Unis qui ont inventé l'impôt quasi confiscatoire sur les revenus. Le taux marginal supérieur, donc le taux d'impôt applicable aux revenus les plus aisés aux États-Unis entre 1950 et 1980, il est de 80% en moyenne. En 1945, Il y a trois pays dans le monde qui ont un taux marginal supérieur sur le revenu d'environ 90%. C'est les États-Unis, la République fédérale d'Allemagne et le Japon. Pourquoi ces trois pays ? Les États-Unis parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut pour réguler le capitalisme. Et les deux autres pays parce qu'ils sont, à l'époque, sous administration américaine, à la sortie de la guerre, et que, pour les Américains, le package civilisationnel pour reconstruire ces pays, c'est à la fois du plan Marshall, et c'est aussi à la fois un impôt super progressif sur les revenus. Parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir se reconstruire et qu'on va pouvoir refaire une civilisation.
Donc on retrouve cette idée que c'est on refait société en baissant les inégalités, à Cécile Duflo ?
Oui, bien sûr, et pour une autre raison, c'est que ce qu'on entend aussi sur il ne faut pas punir les riches, c'est dire mais parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils avaient du talent. En gros, bah, les autres, ils ont qu'à faire pareil. Sauf que c'est vrai. Si on réfléchissait comme ça, en disant bah, chacun peut, à égalité, trouver l'idée de génie qui va le rendre riche. Mais les milliardaires dans le monde, ils sont pas milliardaires parce qu'ils ont eu des idées de génie. Pour l'essentiel, plus au moins un tiers, et pour certains, dans certains pays, les deux tiers, ce sont leur richesse provient d'héritage, de monopole ou de situation de connivence. En général, la situation de connivence permettant le monopole. Donc ce sont des richesses mais qui ne sont pas du tout le résultat de talents personnels qui auraient été développés. Et cette concentration des richesses, cette transmission du patrimoine, aujourd'hui, elle s'accroît. Donc, en fait, l'égalité ne peut plus être rétablie, puisque ces richesses-là ne sont plus des richesses ni qui sont vulnérables à quoi que ce soit, ni qui sont méritées. La deuxième chose sur la France spécifiquement, parce que je pense qu'il y a un point qui n'est pas vu, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question des revenus ou de la richesse. Et à mon avis, une des clés d'explication de la situation actuelle, c'est la part de ce qu'on appelle les dépenses contraintes dans le revenu des ménages, qui a énormément augmenté entre les années 60 et aujourd'hui. Donc, à l'échelle des familles, entre la vie des parents et la vie des enfants. Cette part, elle est passée de un peu plus de 10% à plus de 30%. Et pour l'essentiel, du fait de l'augmentation du prix du logement, ces inégalités peuvent s'accroître encore davantage par la question des dépenses contraintes d'alimentation, d'accès au réseau ou celle qui est la plus massive, par celle du logement. Donc c'est vrai que la question de la façon dont on mesure ces inégalités pour bien percevoir la différence entre la perception et la réalité, ça nécessite de descendre dans un certain nombre de critères pour voir effectivement qu'un certain nombre de gens, et d'ailleurs c'est ce qu'ils exprimaient, et c'est ce qu'on a entendu avec les Gilets jaunes, ils disaient en fait, on commence le mois en n'ayant pas de choix. Parce que tout s'est déjà empilé entre le logement, l'assurance de la voiture, les frais de carburant, etc., etc.
Olivier Galland.
Oui, alors je voudrais revenir quand même à mon raisonnement sur ce gap entre les perceptions et la mesure. Au fond, une des explications quand même, c'est que la perception des inégalités et des sentiments de justice, c'est aussi le produit d'une histoire culturelle longue. Vous parliez du mot de Tocqueville sur la passion des Français pour l'égalité dans son célèbre ouvrage sur l'Ancien Régime et la Révolution, donc écrit au XIXe siècle. Et bon, cette passion, elle perdure. Et effectivement, c'est quand même frappant de voir les contrastes saisissants dans ces perceptions des inégalités. Alors, lorsqu'on compare peut-être les deux extrêmes, les États-Unis et la France, c'est absolument fascinant, parce que les États-Unis sont effectivement un pays où les inégalités ont explosé, où elles sont très fortes, mais où les Américains ont un niveau de tolérance aux inégalités très 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 élevé. Lorsqu'on les interroge, par exemple, sur les raisons pour lesquelles il y a des pauvres dans nos pays, c'est une des questions des enquêtes sur les valeurs, ils sont une majorité à dire que c'est parce que ces pauvres, ils sont paresseux, alors qu'en France, on incrimine l'injustice de la société. Donc, il y a des modèles culturels extrêmement contrastés dans la perception des inégalités. Et alors, c'est vrai que les Français ont cette passion pour l'égalité, cette passion pour la justice, qui fait que effectivement, ils sont très en faveur d'une réduction des écarts de revenus ou de patrimoine. Mais attention, ils ne sont pas non plus égalitaristes. Voilà, ils reconnaissent le rôle du mérite, l'importance d'avoir des rémunérations différentes entre différents niveaux de qualification. Donc voilà, ils sont pas non plus égalitaristes. Et alors, juste, je voudrais finir en indiquant quand même deux transformations objectives de la société qui contribuent aussi à changer le paysage des inégalités. Il y a une première chose, je crois très importante, c'est que les gens maintenant ont le sentiment que personne n'est à l'abri d'un déclassement social brutal. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans le paysage. D'abord, l'instabilité professionnelle, qui effectivement s'accroît. Alors, beaucoup plus, encore une fois, aux États-Unis qu'en Europe. Mais enfin, ça commence. Et ça, on en parle moins, mais c'est très important. l'instabilité familiale, la croissance de la divorcialité qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes seules. Et être seul, si on combine la solitude et la précarité économique, là, effectivement, on peut chuter et tomber dans des situations d'exclusion sociale et de pauvreté très graves. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour un certain nombre de personnes.
Les études sur la pauvreté le montrent, parents célibataires.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les titulaires du RSA sont très souvent des personnes seules. Et puis, juste pour finir, je voudrais signaler aussi une deuxième évolution qui, à mon avis, est très importante. C'est un changement de registre aussi des inégalités. C'est l'apparition de demandes de justice qui concernent non plus tellement le statut professionnel ou le revenu, mais des identités et des droits liés à des questions identitaires. Et donc c'est toute la question des discriminations, qui est quelque chose de relativement nouveau dans le paysage des représentations de la justice. Alors c'est les droits que réclame en fonction du genre, en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de l'origine ethnique. Voilà. Donc il y a tout un nouveau paysage identitaire et de demande de reconnaissance des questions de justice qui fait sortir, enfin qui élargit, si vous voulez, la question des inégalités et de la justice à des questions identitaires et plus seulement à des questions de statut professionnel et de revenus. Je crois que c'est une évolution extrêmement importante.
On va revenir sur ces différents points, mais d'abord Cécile Duflot, sur la question d'une meilleure acceptabilité des inégalités économiques et sociales aux États-Unis. Vous voulez réagir ?
Moi, je pense que c'est assez faux. Je pense que d'ailleurs, il y a un économiste qui analyse l'élection de Trump comme un avatar de cette aggravation des inégalités. C'est-à-dire que pour tolérer ce tel niveau d'inégalité qui a des effets mesurables, le taux d'incarcération aux États-Unis, c'est-à-dire la gestion de la pauvreté, un niveau de violence, il y a quand même une société qui est d'une très grande brutalité, ce qui est une forme de réaction de la société à ce niveau d'inégalité, et sans doute, donc je parle de l'élection de Trump, le résultat de ce niveau d'inégalité où il faut trouver un ennemi extérieur, et l'activité favorite de Donald Trump, on peut le séquencer, et après le dirigeant nord-coréen, le Mexique, de trouver un nouvel ennemi extérieur contre lequel il faut se mobiliser pour éviter d'avoir à se poser la question de cette instabilité américaine. Donc je pense qu'on est justement à la limite de l'acceptabilité d'une société d'un tel niveau d'inégalité, puisque là aux États-Unis, non seulement les inégalités primaires sont fortes, mais elles se sont accrues de manière considérable.
Il y a une autre question qui se pose, c'est le lien entre les inégalités et la croissance économique. Certains économistes soutiennent de façon un peu cynique que la réduction des inégalités a un effet négatif sur la croissance, ce qui reviendrait à dire que les inégalités sont bonnes pour l'économie. Et sur ce point, il y a beaucoup de désaccords, Jean-Marc Daniel.
Oui, alors il y a énormément de débats sur le lien qu'il y a entre inégalité, d'une façon générale, et croissance économique. Je citerai trois économistes qui sont investis là-dessus. D'abord, un des deux économistes à avoir eu le prix Nobel d'économie pour des travaux sur la croissance, c'était Kuznets, et il a analysé de façon tout à fait empirique comment s'était construite la croissance dans les principaux pays occidentaux et le Japon. Il a fait une courbe, d'ailleurs, qui est au début du livre de Thomas Piketty, qui s'appelle la courbe de Kuznets, où on a en abscisse le PIB par habitant, donc le revenu par habitant, et en ordonnée, on a un coefficient qui mesure les inégalités, donc il y a quand même des outils de mesure des inégalités, qui est le coefficient de Gini.
Ce qui nous montre, c'est qu'il y a une période pendant laquelle les inégalités vont augmenter, puis elles vont se mettre à diminuer.
Elles vont descendre. Et alors là, l'interprétation de Kuznets, c'est que effectivement, au tout début, les inégalités se creusent parce qu'il y a une partie de la population qui est en avant par rapport aux autres et qui va bénéficier d'innovations, de capacités à générer des profits sur un nouveau type de production économique. Et la courbe va s'inverser dans des sociétés qui sont des sociétés concurrentielles. C'est-à-dire toute société qui maintient de la connivence, des monopoles, qui refuse la concurrence, va maintenir ce seuil d'inégalité, ce niveau d'inégalité. En revanche, une société dans laquelle on fait une politique assez systématique de concurrence, une politique dans laquelle très rapidement l'entrepreneur est coursé par un imitateur, à ce moment-là, la courbe va s'inverser. Le deuxième à avoir fait des travaux là-dessus, c'est Angus Deaton. Angus Deaton, lui, il a eu le prix Nobel d'économie en 2015 pour avoir travaillé sur les inégalités. Qu'est-ce qu'il dit, Angus Deaton ? Il dit qu'effectivement, le véritable enjeu sur le plan économique, c'est d'avoir une politique qui est une politique qui, en redistribuant, donc c'est de façon assez simple et banale, si on redistribue trop, le gâteau que l'on redistribue a tendance à ne pas croître. Et donc, à la fin, l'ensemble de la société pénalisé par un système de redistribution. Et donc il rejoint là aussi cette idée que le véritable problème, c'est de maintenir des inégalités d'accès, Mais il souligne bien qu'il y a des problèmes dans l'égalité d'accès et dans l'égalité des chances, c'est que si on arrive à une société parfaitement égalitaire sur le plan de l'égalité des chances, tout échec personnel est véritablement personnel. C'est-à-dire que dans une société qui est une société qui se vit en disant les inégalités sont le produit d'une organisation sociale, le fait d'être en bas de la hiérarchie est fait de l'individu qui est en bas de la hiérarchie une victime. Alors que dans une société qui affiche « on a réalisé l'égalité des chances », celui qui n'arrive pas à exprimer ses chances, mais c'est quelqu'un qui au départ n'avait pas de talent. Et l'un des grands enjeux, c'est de mesurer effectivement comment on accompagne sur le plan social une société qui de toute façon sera inégalitaire, mais dans laquelle chacun aura eu la possibilité d'exprimer son talent. Et puis le troisième personnage auquel je pense, c'est donc Hansen dont je parlais tout à l'heure, donc Hansen qui et à cette période où il y avait un taux marginal d'imposition sur le revenu de 90%, il dit pas ce que vous racontez. Hein. Il dit que le but de maintenir ce taux marginal, c'est pas de réduire les inégalités, c'est de lutter contre l'inflation. Il explique bien que si vous avez un taux marginal très très élevé, pour une entreprise qui va consentir une hausse de salaire à un certain nombre d'individus, le prix à payer pour satisfaire cet individu, si vous donnez une augmentation de salaire de 100 et si l'État en récupère 90, la personne a 10 et le coût pour l'entreprise est colossal. Et donc les entreprises vont avoir des rapports avec dans les négociations salariales qui vont être des rapports beaucoup plus sévères, notamment sur les tranches supérieures de l'encadrement, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir et les gens qui pourraient se donner davantage de hausse de salaire. Et donc quand Kennedy arrive au pouvoir en 1960, il fait faire un état des lieux sur les gens qui paient les 90%, et les 100 personnes qu'on lui met en avant, qui sont susceptibles de les payer, ne les paient pas. Et il a cette formule, il dit, ce genre de mesure, ça ne réduit pas les inégalités, ça enrichit les conseillers fiscaux. Donc il y a un moment où effectivement l'outil, et on en revient à cet outil, je vais conclure sur l'outil, on a parlé de l'ISF, je rappelle que Rocard disait que l'ISF, quand il l'a rétabli, n'a de sens au taux où il l'a rétabli, parce que les taux d'intérêt sont à 9%. Il dit il ne s'agit pas de punir les riches, là, de nouveau, il ne s'agit pas de prendre une revanche sur les riches, mais il s'agit de trouver un mode de financement dans un contexte où, compte tenu de la rémunération du capital, effectivement, cet impôt va être supportable. Or, le capital n'est pas rémunéré de la même façon. Donc, pour conclure, réduire les inégalités, à mon avis, ça dépend de l'outil, et il faut se méfier d'un outil qui aurait comme conséquence de pénaliser la croissance. Et il faut bien voir que la croissance est d'autant plus favorable à la redistribution qu'on est dans une société concurrentielle.
Lucas Chancel, sur cette idée que les inégalités seraient bonnes ou mauvaises pour la croissance, il y a aussi des études du FMI qui ont montré que de plus en plus les inégalités, au contraire, pesaient sur la croissance.
Alors, tout à fait. Disons que on vient quand même de plusieurs décennies de débats au sein des économistes sur les liens entre macroéconomie, croissance du PIB et inégalité, où l'idée c'était plutôt de dire que ces inégalités sont plutôt bonnes pour la croissance, que finalement une société inégalitaire, c'est une société qui va entraîner les plus pauvres à travailler davantage, à devenir plus productifs, et tout ça, ça va tirer tout le monde vers le haut. Premièrement. Deuxièmement, c'est cette idée, ce qui vient d'être dit, qu'il y aurait un panier percé lors de la redistribution. Et redistribuer, c'est s'exposer à une perte nette pour tout le monde, parce que quand on redistribuerait, il y aura une partie de ce qu'on redistribue qui va être perdue en perte d'inefficacité du système de redistribution. Maintenant, quelle est la réalité de ça? Eh bien, les dernières études sur ces questions, notamment faites par des chercheurs du FMI, montrent que on n'arrive pas à observer ce panier percé. C'est-à-dire que les sociétés qui vont redistribuer davantage ne sont pas des sociétés qui vont croître à un taux plus faible que les autres. Donc il n'y a pas de lien entre redistribution, en tout cas dans les niveaux qu'on observe. Bien sûr que si on imagine un cas théorique où on va redistribuer l'ensemble de la richesse de l'économie, alors là, oui, on peut s'imaginer qu'il y aura des impacts sur la croissance. Mais en tout cas, dans les taux de redistribution qu'on observe, et ils sont variables entre les pays, c'est-à-dire qu'en France, c'est à peu près la moitié du revenu national qu'on redistribue. Aux États-Unis, c'est à peu près 30%. Mais en tout cas, dans ces bornes-là, pas d'impact sur la croissance. Et la nouvelle pensée, quand même, maintenant, que ça aille du FMI à la Banque mondiale à l'OCDE, c'est quand même plutôt que un niveau trop élevé d'inégalité, c'est pas bon, à la fois pour le fonctionnement de l'économie, de la macroéconomie, c'est pas bon non plus pour le fonctionnement des systèmes de santé. Les sociétés trop inégalitaires sont des sociétés où tout le monde va être davantage malade, pas uniquement les plus pauvres, mais aussi les plus riches, parce que on sait bien que les maladies, c'est quelque chose qui peuvent se transmettre au-delà des classes de revenus, mais aussi par un vecteur. Ça, ce sont des épidémiologistes anglais qui nous disent cela, qui nous démontrent cela. Les sociétés plus inégalitaires sont des sociétés qui sont plus stressées. Le stress étant lié à toute une série de maladies à la fois cardiovasculaires, mais aussi le diabète, aussi l'obésité. Tout le monde est plus stressé dans une société inégalitaire, les plus modestes, mais aussi, ce que nous disait tout à l'heure Cécile Duflot, les plus riches aussi, derrière leur cage, dans leur cage d'acier, sont aussi davantage stressés de perdre leur statut social.
Donc tout le monde a gagné à une baisse des inégalités.
Impact sur toute la société en matière de santé. Et enfin, dernier point là-dessus, sur le lien entre inégalité et productivité, par le canal de l'éducation, les sociétés plus inégalitaires sont des sociétés qui finalement n'arrivent pas à aller chercher les talents là où ils sont et ne leur permettent pas de se réaliser dans la société. Et notamment parce que quand on est dans un contexte inégalitaire, quand on est victime d'une injustice, on va avoir plus de mal à réaliser son talent. Il y a plein d'études au niveau micro qui montrent cela, notamment dans des contextes ultra inégalitaires comme en Inde, mais aussi dans des contextes inégalitaires comme aux États-Unis avec les minorités ethniques, également en Europe, sur les inégalités hommes-femmes, on voit que les populations défavorisées sont des populations qui vont avoir des scores plus faibles sur des tests assez standardisés, du fait de leur position dans la hiérarchie des revenus. Et si on aplatit cette inégalité de statut, alors les résultats sont meilleurs.
Alors, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question des inégalités environnementales. Et d'abord, ce qu'il faut expliquer, Cécile Duflot, c'est que plus on est riche, plus on émet de gaz à effet de serre. C'est la première chose qu'il faut dire.
Oui, ça vaut à l'échelle de la planète. Les 10% les plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça vaut aussi si on descend pays par pays. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, par exemple, le débat sur la taxe carbone est devenu aussi sensible, notamment par son aspect effectivement complètement élargi, sans redistribution ou sans mise en œuvre de la transition, parce que c'est ce que je me permettrais de dire après le petit débat qu'il y a eu sur lien inégalité croissance économique. La question aujourd'hui de la croissance économique, de la croissance du PIB dans un monde confronté à la crise climatique, au risque majeur, c'est une question qui doit s'interroger. C'est-à-dire que quelle croissance ? Aujourd'hui, la question devient absolument, absolument vitale au sens littéral du terme pour notre humanité. Et donc cette question des inégalités face au risque climatique, elle est sur les émissions de gaz à effet de serre, mais elle est aussi sur les conséquences. Aujourd'hui, ce sont les populations les plus pauvres, notamment au Sahel, notamment en Asie du Sud-Est, qui vivent les premières les conséquences du dérèglement climatique, notamment avec la sécheresse, l'aggravation des phénomènes météorologiques intenses, mais, et ce qu'on sait peu, dans cette inégalité donc première entre les riches et les plus pauvres, il y a une deuxième inégalité, c'est que parmi les plus pauvres, les plus vulnérables, ce sont les femmes et les enfants, mais souvent les femmes. Et on le sait peu, mais par exemple, y compris face à des catastrophes naturelles dont on imagine qu'elles touchent tout le monde de la même manière, je pense à un tsunami, et ben on a constaté qu'il y avait une surmortalité féminine, parce que les femmes ont moins accès à l'information, parce que les femmes apprennent moins à nager, parce que les femmes sont plus à la maison avec les enfants en bas âge, et donc du coup ont moins de capacité à s'échapper. Donc il faut voir que cette cascade d'inégalités, elle est aussi potentialisée, et ça vaut d'ailleurs pour la France, hein, par le fait d'être une femme. Vous parliez des personnes seules tout à l'heure, ces personnes seules qui élèvent des enfants, ce sont très largement des femmes. Aujourd'hui, les femmes travailleuses pauvres, c'est-à-dire des femmes qui travaillent et souvent qui ont des enfants, sont celles qui sont le plus victimes des inégalités. Et ce sont celles qui sont le plus sorties de l'inégalité par la redistribution. Et notamment la dernière étude qui a été faite sur l'APL par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, montre que l'APL en France, c'est le filet de sécurité qui évite à des femmes seules avec enfants de se retrouver dans l'incapacité de se loger dans des conditions décentes. Donc il faut bien voir que derrière ces critères, derrière ces éléments d'analyse, derrière ces grandes visions, il y a des réalités humaines et il y a une aggravation des inégalités qui en plus aggravée par les inégalités de genre et notamment par la plus grande vulnérabilité des femmes. Donc c'est deux questions d'inégalité sociale et d'inégalité environnementale, à la fois dans les émissions et la pollution, mais aussi dans les conséquences, sont vraiment très notables et importantes à étudier si on veut pouvoir justement mettre en œuvre les politiques publiques correctrices.
Et justement sur ces inégalités environnementales, il y a des études qui montrent que il y a dans le monde des très riches qui émettent 2000 à 3000 fois plus que les plus pauvres, et pourtant la taxe carbone qui visait précisément à diminuer les émissions de gaz à effet de serre pèsent 4 fois plus sur le budget des plus pauvres. C'est ce que dit l'économiste Jean Gadret. Il faut aujourd'hui, Lucas Chancel, réfléchir à cette fiscalité environnementale afin qu'elle soit plus juste.
Quand on met en place une taxe carbone qui va avoir pour impact, hein, dans le cadre du débat de l'année dernière, 4 milliards de plus de taxation sur le carbone. Sur le carbone des ménages, logements, et transport pour se déplacer de domicile travail. Que dans le même moment, on réduit d'environ 4 milliards la taxation sur les plus hauts patrimoines et que les recettes de cette taxe carbone sont en toute petite partie fléchées à l'accompagnement des ménages qui vont être perturbés dans leur quotidien pour aller se déplacer, pour se chauffer, et que une grande partie de ces recettes sont en fait utilisées pour boucher le trou du fait de la suppression de cet ISF, alors on peut comprendre que ça va poser quand même problème, mais ça peut créer toute une série de tensions sociales et politiques. Alors que dans d'autres contextes, notamment je pense à l'Alberta au Canada, qui est un État quand même pétrolier, qui est un État où on n'aime pas forcément les taxes, mais qui est un État qui a réussi à mettre en place une taxe carbone. Pourquoi ? Eh bien parce que une bonne partie des recettes a été utilisée pour compenser les ménages modestes et les ménages pauvres de manière assez progressive, donc selon votre niveau de revenu, selon le type de foyer dans lequel vous êtes, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes dans un couple, est-ce que vous avez des enfants, etc., vous allez pouvoir recevoir une aide directe qui est issue des recettes de cette. On n'a pas été capable de faire ça dans le cas français. On aurait pu le faire. On a décidé, en tout cas le gouvernement a décidé de ne pas le faire. On sait que même au sein de la majorité, il y a eu des débats. Il y a un ministre de la Transition écologique qui portait ce type de mesure. Visiblement, il n'aurait pas été écouté. En tout cas, c'est ce qu'on a pu entendre. Donc, oui, ça pose problème.
Vous, ça passe par un meilleur fléchage.
Alors, c'est un meilleur fléchage
environnemental.
Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi tant qu'on n'arrive pas à mettre à contribution les grands pollueurs, les grands émetteurs, et notamment, on sait que les vols intérieurs et les vols européens ne sont pas taxés aujourd'hui. Zéro taxation énergétique sur l'aviation. Quand on va taxer les déplacements...
Qui pose des questions en termes d'harmonie au niveau mondial aussi, la taxation de l'aérien.
Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on prend le problème par le niveau mondial, on va se dire c'est pas possible, mais on fera jamais rien. Mais au niveau français, on peut déjà taxer aujourd'hui les vols intérieurs.
Ce qui représente une part infime en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors, c'est pas une part infime, c'est environ 1 milliard d'euros à la clé qu'on pourrait récolter en taxant ça. D'autres pays européens le font. Les Suédois, par exemple, le font. Et en faisant ça, on rétablit quand même un peu l'équité entre les émetteurs qui vont émettre pour soit des déplacements de travail Paris-Marseille, Paris-Toulouse, soit des déplacements de week-end, mais qui contribuent quand même à la pollution et qui, finalement, contribuent aussi à peut-être à ce sentiment d'injustice vis-à-vis de ces outils de la politique climatique. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va résoudre tout le problème climatique en taxant le kérosène aérien demain en France, mais ça va participer, je pense, à ce sentiment d'acceptabilité de ces politiques climatiques.
Je voudrais entendre Jean-Marc Daniel sur la fiscalité environnementale.
Je pense que par rapport à ça, je ferai 3 remarques. La première, c'est vrai, on l'a dit, les pauvres maintenant en France, ce sont plutôt des femmes isolées. En 1970, quand on a commencé à calculer un seuil de pauvreté, le pauvre, c'était un retraité qui était au régime des retraites ouvrières et paysannes de 1906. Donc, il y a un basculement de la pauvreté et qui est un basculement générationnel. Et je pense qu'il y a une des questions que doit se poser la société, c'est que, en termes d'inégalité, il y a aussi le fait qu'une certaine génération va léguer alors une dette écologique, mais aussi une dette publique, parce que les dépenses publiques ne sont pas contrôlées, à la génération d'après. Et donc, il y a une forme d'inégalité implicite qui est en train de se mettre en place, où un certain nombre de génération, une génération pénalise la génération d'après et lui crée des conditions qui sont des conditions moins favorables de vie. Donc je crois qu'il y a un enjeu là aussi à réfléchir sur les dépenses publiques. Et le deuxième élément sur la taxe carbone, il y avait quand même dans les résolutions de la COP, il y avait la définition d'un prix du carbone et non pas la définition d'un montant de la taxe. Je pense que ce qui est, là aussi est mal construit, c'est une obsession fiscaliste qui consiste à ramasser des impôts, alors que l'enjeu c'est effectivement d'avoir un prix qui va prédéterminer le comportement des gens. Grosso modo, c'est l'histoire de la TIPP flottante. Si on avait affiché comme on le fait pour le tabac d'ailleurs, on dit ce sera 8 euros le paquet, 9 euros le paquet, 10 euros le paquet, à partir de ce moment-là, les gens adoptent un comportement qui est un comportement en conformité avec l'évolution du prix. Or là, on est dans des situations où le prix fluctue en permanence parce que sur la détermination du prix, il y a la taxe carbone et puis il y a la rente des pays pétroliers. Et donc, quand la rente des pays pétroliers s'accroît, mais une partie de ce qui est dans le prix s'accroît aussi. La dernière remarque que je ferai, c'est que à l'aune de l'humanité, même les pauvres Français sont des riches. Et donc, il y a un véritable questionnement par rapport à l'enjeu climatique, c'est à qui on va demander l'effort, et est-ce qu'on va le demander uniquement à une petite courge de quelques milliardaires américains, ou à l'ensemble de la population, et notamment des populations occidentales, qui encore une fois sont en train de léguer de la dette et de la dette écologique à la génération d'après, et sont en train de refuser tout effort, alors que les plus malheureux, c'est plutôt des populations qui leur sont extérieures. Je vais prendre juste un exemple, avec une heure de SMIC en 1970, avant le choc pétrolier, au moment où le prix du pétrole en termes de prix réel était le plus bas, avec une heure de SMIC, on achetait 30 km de parcours en automobile. Aujourd'hui, après les chocs pétroliers, en octobre dernier, après le choc pétrolier, puisque depuis le pétrole a un peu baissé, avec une heure de SMIC, on achetait 130 km de circulation automobile. Et donc, malgré les chocs pétroliers, l'incitation à utiliser son automobile, à utiliser et à donc accroître la lourdeur de la charge carbone, l'incitation est plutôt dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, qui est une réflexion. Un certain nombre de partis politiques, notamment proches de Cécile Duflot, parlent de sobriété solidaire. Ben, il faut donner un peu de la chair à ça et faire comprendre à la population que effectivement. C'est un enjeu qui est un enjeu qui dépasse simplement le simple fait de savoir si les gens qui font Paris-Nice en avion sont des privilégiés ou pas.
Ce qui soulève aussi la question des inégalités territoriales, puisque certains ne peuvent pas se déplacer sans leur voiture. Cécile Duflot.
Juste pour dire que je suis proche d'un certain nombre de gens, mais majoritairement des gens d'Oxfam en France et à l'étranger. Et c'est la force d'une organisation internationale. C'est donc je partage une part de ce que vous dites. Il est certain qu'aujourd'hui, ceux qui vivent les conséquences de notre mode de vie ne sont pas en France. Mais la question de celle de « il faut faire des efforts », c'est qu'une partie de ces efforts sont possibles s'ils sont portés collectivement. C'est-à-dire s'il y a des politiques publiques. Pourquoi des gens prennent leur voiture et pourquoi des gens ont des véhicules diesel? Parce que la politique publique, complètement hypocrite, a poussé les Français, par une défiscalisation de fait du diesel, à acheter des véhicules diesel pour acheter plus des véhicules français. Et ensuite, les a mis dans des situations où ils étaient très loin de leur lieu de travail et contraints d'utiliser leur voiture. Quand vous avez une femme, gilet jaune, qui explique, c'est d'ailleurs très intéressant son témoignage, je pense que c'est un des plus édifiants que j'ai lu. Elle dit, moi c'est insupportable, parce que maintenant avec la taxe carbone, l'augmentation du prix de l'essence, ça va être beaucoup trop cher, enfin du diesel, ça va être trop cher pour moi. Et on lui disait, mais pourquoi vous prenez pas le train? Elle dit, mais je prenais le train avant. En voiture, ça me prend une demi-heure, en train 45 minutes. Mais j'étais avec mes copines, puis je risquais pas d'accident, donc je prenais le train. Mais la ligne a été supprimée. Et donc, la réalité, c'est que si vous voulez qu'il y ait des changements de comportement, ils peuvent être individuels, mais ils peuvent être favorisés, poussés, développés, y compris sur un plan financier, par la puissance publique. Donc, renvoyer à la responsabilité individuelle ou renvoyer en disant « vous êtes défavorisés », c'est vrai, la vie que nos générations ont. Alors, on peut s'interroger, étant donné la consommation de psychotropes sur le bien-être des sociétés occidentales, il y a un vrai sujet qui n'est pas épuisable immédiatement. Mais la question de savoir comment changer de comportement, comment changer d'alimentation, si vous voulez avoir, par exemple, ne plus utiliser de plastique, ce qui est quand même sans doute un des enjeux importants, je le dis ça en regardant et nos verres et nos bouteilles. Il y a trois outils de politique publique. Un, la réglementation, c'est interdit. En fait, et vous avez vu la résistance, on a fait voter il y a quelques années, ça a été revoté par les députés de La République En Marche et supprimé par le Sénat, l'interdiction des couverts et des verres en plastique. C'est absurde en fait, parce qu'on a d'autres moyens de le faire. On peut faire des objets qui sont totalement compostables, et du coup, les restes d'alimentation et les objets qui aujourd'hui sont en plastique émettent des milliers d'années et gaspillent du plastique, du pétrole qui a mis là des milliards d'années à se constituer. Il y a un changement d'usage qui doit être poussé, développé, solidifié et structuré par la puissance publique. On peut pas renvoyer ça à la responsabilité individuelle, mais oui. La question de savoir s'il faut faire Paris-Nice en avion pour aller en week-end, honnêtement, se pose sérieusement.
On a vu que le mouvement des Gilets jaunes avait été déclenché par cette taxe carbone, et on a parlé à ce moment-là de la manifestation d'un moindre consentement à l'impôt. Olivier Galland, pour continuer sur cette discussion des Français face à la transition énergétique, est-ce qu'on constate un rejet croissant de la fiscalité ?
Ah oui, ça c'est. Il est constant, il n'est pas croissant, il est constant. Hein. Effectivement, on a fait cette enquête. Alors, elle est déjà un peu ancienne, de 2013. Il y avait tout un volet sur la fiscalité. Une très très large majorité, je crois que c'est 80% des Français, trouvent que les impôts sont trop élevés. Donc voilà, effectivement, le ras-le-bol fiscal, il est bien présent.
Et c'est bien un manque de transparence, un manque de débat, de visibilité de notre
système d'impôts.
Je
pense que l'opacité du système fiscal, sa complexité, son manque de transparence est un des facteurs qui explique ce faible consentement à l'impôt. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est de voir que ce rejet de l'impôt, il n'est pas simplement le fait des personnes aisées. Hein, il est absolument général. Même les personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu trouvent que les impôts sont trop élevés. Ce qui pose d'ailleurs un problème, effectivement, pour le modèle redistributif français. Mais je crois que, en ce qui concerne les Gilets jaunes, vous voyez, il y a cet aspect, effectivement, cet arrière-plan fiscal, mais comme l'a dit Cécile Duflot, je crois que c'est très important, effectivement, cet aspect de dépenses contraintes dans le budget des ménages, c'est quelque chose de très important. Et en zone rurale, effectivement, la voiture, d'une certaine manière, même si les statisticiens ne l'incluent pas dans les dépenses contraintes, c'est en réalité une dépense contrainte. Et donc, effectivement, la taxe carbone a été très très mal vécue à cause de ça. Alors d'ailleurs, dans l'enquête que l'on a menée en 2013, on posait une question justement sur ce principe de taxe pour la pollution. Et il y avait quand même une majorité de Français qui étaient favorables, hein, quand même. Alors, c'est pas beaucoup, mais enfin une petite majorité qui était favorable. Mais plutôt des urbains. Les ruraux, ils étaient plutôt contre. Et ce qui était amusant, c'est que les personnes âgées, elles, étaient plutôt favorables au principe, disons, de la taxe carbone. Mais évidemment, après, on leur a mis la CSG. Alors ça, il y a peut-être eu là une petite erreur politique.
Donc c'est une réforme de la fiscalité, avant tout, pour conclure, Lucas Chantal, qui permettrait de réduire les inégalités ?
Un mot sur l'opacité. Je pense que c'est effectivement l'un des grands problèmes du système fiscal français. Cette opacité, une partie de la population s'en accommode assez bien. À coup de, soit on paye des fiscalistes pour utiliser finalement les méandres du droit fiscal français et avoir des déductions d'impôts. Donc ça, c'est le haut de la distribution des revenus qui finalement s'accommode très bien de cela. Alors que les plus modestes ont beaucoup plus de mal à comprendre de quoi il s'agit et à utiliser tous les outils fiscaux. Et d'ailleurs, des fois, ces outils ne sont pas à leur disposition, puisque quand on ne paye pas l'impôt sur le revenu, on ne peut pas avoir les déductions fiscales associées à tout un tas de niches fiscales. Donc l'opacité, c'est quand même d'abord quelque chose qui pèse sur les plus modestes, davantage que sur les plus... Oui, plus de lisibilité, c'est extrêmement important pour le consentement à l'impôt, des impôts plus justes également. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire, là je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure, qu'on va tout régler en ayant un impôt carbone qui soit plus juste, qui soit plus progressif, et qui prennent en compte non seulement les déplacements domicile-travail d'une grande partie de la population, mais aussi les déplacements en avion pour aller en week-end. Mais c'est important, c'est une partie importante de la solution. Et enfin, tout ça, finalement, c'est derrière, il faut des investissements publics dans la transition écologique. Et on sait aujourd'hui très bien que rénover les logements, c'est une politique qui peut permettre à la fois de créer de la croissance, de réduire les inégalités, tout en réduisant les factures énergétiques des plus modestes. Donc là, on a une solution qui est à la fois écologique, à la fois sociale, et qui permet aussi d'augmenter les revenus. Le problème, c'est qu'on ne met pas aujourd'hui les moyens nécessaires à nos ambitions climatiques.
La question de la volonté politique, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cécile Duflot, Lucas Chancel, Jean-Marc Daniel et Olivier Galland. C'était « Quel degré d'inégalité nos sociétés peuvent-elles supporter ?» Une émission d'Entendez-vous l'écho diffusée dans le cadre de la journée spéciale de France Culture intitulée « Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique ». Cette émission a été préparée par Arjuna Andrade et réalisée par Elisabeth Miro. À la technique, Frédéric Caillerou, Georges Thau, Mathieu Leroy et Tanguy Le Corneau. On se retrouve lundi pour une série consacrée à l'économie de la colonisation. Mais d'abord, c'est l'heure de la compagnie des poètes avec Manu Farine. Excellent week-end et à lundi.